tremblant de la tête aux pieds, Harry délivra Dobby de la penderie. « Vous avez vu comment c'est ici. Vous comprenez pourquoi il faut que je retourne à Poudlard. C'est le seul endroit où... enfin, où je crois avoir des amis. »«
Des amis qui n'écrivent même pas Harry Potter. »
dit Dobby d'un ton sournois. Ben, « J'imagine qu'ils ont dû, mais au fait... » dit Harry en fronçant les sourcils. « Comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit ?» Dobby se tortilla sur place, visiblement mal à l'aise.
« Harry Potter ne doit pas se fâcher contre Dobby. Dobby a voulu faire pour le mieux. »«
C'est vous qui avez intercepté mes lettres ?»«
Dobby les a apportées avec lui, monsieur. »
Il fit un rapide pas en arrière pour rester hors de portée de Harry et tira une épaisse liasse d'enveloppe de sa tête d'oreiller. Harry reconnut l'écriture propre et nette d'Hermione et celle beaucoup plus désordonnée de Ron. Il aperçut même un gris bouilli qui semblait être de la main de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard. L'air anxieux, Dobby regarda Harry en clignant des yeux.
« Harry Potter ne doit pas se mettre en colère. Dobby espérait que si Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait plus retourner à l'école, monsieur. »
Il essaya d'arracher les lettres des mains de Dobby, mais celui-ci fit un bond en arrière pour se maintenir hors de portée.
« Harry Potter aura les lettres, monsieur, à condition qu'il donne sa parole à Dobby, qu'il ne retournera pas à Poudlard. Ah, monsieur, il ne faut pas que vous affrontiez un tel danger. Promettez-moi que vous ne retournerez pas là-bas. »
« Mais je ne promettrai rien du tout, » répliqua Harry avec colère. « Rendez-moi les lettres de mes amis. »«
Dans ce cas, Harry Potter ne laisse pas le choix à Dobby, »
dit l'elfe avec tristesse. Et avant que Harry ait pu faire un geste, Dobby se précipita sur la porte de la chambre, l'ouvrit et dévala l'escalier. La gorge sèche, l'estomac noué, Harry se roua derrière lui en essayant de ne pas faire de bruit. Il sauta d'un bond les 6 dernières marches et atterrit sur la moquette du hall d'entrée avec la souplesse d'un chat, cherchant Dobby des yeux. De la salle à manger lui parvenait la voix de l'oncle Vernon qui disait
« Racontez donc à Pétunia cette histoire désopilante sur les plombiers américains, monsieur Basson. Elle a tellement envie de la connaître.
» Harry se précipita dans la cuisine. Lorsqu'il arriva devant la porte, il crut recevoir un coup de poing à l'estomac. Le chef-d'œuvre pâtissier de sa tante, la montagne de crème et de violettes de sucre, flottait dans l'air près du plafond. Dans un coin, il vit Dobby accroupi sur le buffet.
« Non, » dit Harry d'une voix rauque, « s'il vous plaît pas ça, ils vont me tuer. »«
Harry Potter doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. »«
Dobby, s'il vous plaît. »«
Promettez-le, monsieur. »«
C'est impossible. »
Dobby le regarda d'un air désespéré.
« Dans ce cas, monsieur, Dobby doit agir pour le bien de Harry Potter. »
Et l'immense gâteau s'écrasa sur le carrelage dans un fracas épouvantable. Le plat vola en éclats, éclaboussant les murs et les fenêtres de crème fouettée et de violette. Dobby disparut alors avec un bruit sec comme le claquement d'un fouet. Des cris retentirent dans la salle à manger et l'oncle Vernon surgit dans la cuisine où il trouva Harry figé de terreur et couvert des pieds à la tête de gâteau à la crème. Tout d'abord, il sembla que l'oncle Vernon allait réussir à minimiser l'incident.
« Ce n'est rien, c'est notre neveu, il est un peu perturbé, il a peur de voir des gens qu'il ne connaît pas, alors il reste dans sa chambre au premier étage. »
Il ramena les maçons stupéfaits dans la salle à manger, promit à Harry de l'écorcher vif dès que ses invités seraient partis et lui donna une serpillière. La tante Pétunia dénicha un peu de glace dans le congélateur et Harry, toujours sous le choc, entreprit de nettoyer la cuisine. À ce moment de la soirée, l'oncle Vernon aurait encore pu conclure son marché, s'il n'y avait pas eu la chouette. La tante Pétunia était en train d'offrir des chocolats à la menthe lorsqu'une énorme chouette s'engouffra dans une fenêtre de la salle à manger, laissa tomber une lettre sur la tête de Madame Masson et ressortit aussitôt. Madame Masson poussa un hurlement et se rua hors de la maison en criant qu'elle ne voulait plus rester un seul instant dans cette maison de fous. Monsieur Masson, lui, resta juste assez longtemps pour préciser aux Dursley que son épouse avait une peur bleue des oiseaux de toute forme et de toute taille et leur demander si c'était là leur conception de l'humour. Dans la cuisine, Harry, appuyé sur le manche de son balai de peur que ses jambes ne le trahissent, vit l'oncle Vernon s'avancer vers lui, une lueur démoniaque dans ses yeux minuscules.
« Lis ça !»
siffla-t-il d'un ton mauvais en brandissant la lettre que la chouette avait apportée.
« Allez, lis !»
Harry prit la lettre. Ce n'était pas une carte d'anniversaire. « Cher Monsieur Potter, Nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation a été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers du premier cycle ne sont pas autorisés à jeter des sorts en dehors de l'école et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de la dite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, article 1875, alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être remarquée par des membres de la communauté non magique, moldu, constitue un délit puni par l'article 13 du Code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher Monsieur Potter, en l'assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Hopcrick, service des usages abusifs de la magie. Ministère de la magie. Harry releva la tête et déglutit avec difficulté.
« Tu ne nous avais jamais dit que tu n'avais pas le droit de faire de la magie en dehors de l'école, hein ?» dit l'oncle Vernon avec une lueur démente dans le regard. « Tu as sans doute oublié de nous en parler, hein ?» Il avait l'air d'un énorme bulldog tout dedans dehors. « Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Désormais, tu seras enfermé dans ta chambre et tu ne retourneras jamais dans cette école, jamais. Car de toute façon, si tu essaies de t'échapper à coups de formule magique, tu seras renvoyé.
Et avec un rire de fou furieux, il traîna Harry jusqu'au premier étage. L'oncle Vernon tint parole. Le lendemain matin, il fit venir quelqu'un pour poser des barreaux à la fenêtre de la chambre de Harry et il se chargea lui-même d'installer une petite trappe au bas de la porte pour qu'on puisse lui passer de quoi se nourrir 3 fois par jour. Harry avait le droit de sortir 1 fois le matin et 1 fois le soir pour utiliser la salle de bain. Le reste du temps, il était bouclé dans sa chambre. 3 jours passèrent et les Dursley se montraient toujours aussi intraitables. Harry ne voyait aucune issue. Allongé sur son lit, il regardait le soleil se coucher en se demandant avec tristesse ce qui allait bien pouvoir lui arriver. À quoi bon essayer de s'échapper par la magie si cela devait entraîner son exclusion de Poudlard? D'un autre côté, la vie à Privet Drive n'avait jamais été aussi insupportable. À présent que les Dursley étaient certains qu'il ne risquait pas de se retrouver transformé en chauve-souris, il avait perdu sa seule arme contre eux. Dobby l'avait peut-être sauvé d'événements terrifiants, mais au train où allaient les choses, il allait probablement finir par mourir de faim. La trappe aménagée dans la porte bascula et la main de la tante Pétunia apparut, poussant à l'intérieur de la chambre un bol rempli de soupe en boîte. Harry, qui avait mal à l'estomac à force d'avoir faim, sauta à bas du lit et saisit le bol. La soupe était froide, ce qui ne l'empêcha pas d'en avaler la moitié d'une seule lampée. Il traversa alors la chambre et versa dans la mangeoire vide d'Edwige les quelques morceaux de légumes détrempés restés au fond du bol. La chouette ébouriffa ses plumes et lui lança un regard dégoûté.
« Ce n'est pas le moment de faire le fin bec, c'est tout ce qu'il y a à manger, » dit-il d'un air sombre.
Il alla reposer le bol vide près de la trappe et retourna s'allonger sur le lit en ayant encore plus faim qu'avant. En admettant qu'il soit encore vivant dans 4 semaines, que se passerait-il s'il ne se montrait pas à Poudlard? Enverrait-il quelqu'un pour voir ce qui se passait? Parviendrait-il à obliger les Dursley à le laisser partir? La pièce devenait de plus en plus sombre. Épuisé, l'estomac gargouillant, tournant et retournant sans cesse dans sa tête les mêmes questions insolubles, Harry sombra dans un sommeil agité. Il rêva qu'on le montrait dans un zoo. Sur sa cage, un écriteau indiquait « Sorcier de premier cycle ». Allongé sur une litière de paille, faible et affamé, il voyait les visiteurs le regarder avec des yeux ronds. Dans la foule, il reconnaissait Dobby et se mettait à crier pour l'appeler à l'aide. Mais il entendait lui répondre
« Harry Potter est en sécurité dans sa cage, monsieur. »
Puis l'elfe disparaissait. C'était alors au tour des Dursley d'apparaître, et il voyait Dudley taper sur les barreaux de la cage en se moquant de lui.
« Arrête !»
marmonnait Harry, tandis que le bruit lancinant des coups sur le métal martelait son cerveau douloureux.
« Laisse-moi tranquille. Arrête. J'essaie de dormir. »
Il ouvrit soudain les yeux. Le clair de lune entrait par la fenêtre et quelqu'un l'observait véritablement à travers les barreaux. Un visage constellé de taches de sang, avec des cheveux roux et un long nez. Harry reconnut aussitôt Ron Weasley.